je vous ai déjà donné un premier fascicule qui portait essentiellement sur l'histoire de l'écriture en Chine, puisque on ne peut pas parler d'écriture au Japon sans d'abord voir qu'il y a eu la réalité de la Chine. Et nous avions vu, d'une part, comment des signes se sont formés, ont évolué, et nous avons aussi considéré les principes sur lesquels ont été conçus les sinogrammes. Et je vous laisse lire là tout ce qui est à la fin, c'est-à-dire ce qui concerne l'imprimerie, l'essor en Chine, du fait, d'une part, il y a eu cette tradition d'écrire sur la roche. Les empereurs, voulant écrire pour l'éternité, allaient dans des montagnes, parfois sur des pics inaccessibles, pour écrire et laisser une trace pour l'éternité de leur présence en ce monde. Et ensuite, on va avoir un autre principe qui va être celui, ce qu'on voit à la page 25, des stèles où les grands classiques du confucianisme seront mis à la disposition de tous pour que chacun puisse venir avec sa feuille de papier, la rendre humide et la coller, et reproduire le texte, et en avoir une copie sans erreur. Puisque si chacun le copie à lui-même, forcément il y a à des endroits des erreurs, là on peut avoir des copies sans erreur. Et si vous allez en Chine, vous verrez que un peu partout, vous découvrirez, parfois sur des magnifiques tortues, des textes qui sont comme ça gravés sur des stèles et qui sont en quelque sorte destinés à ce qu'on vienne éventuellement les reproduire si on veut soi-même les étudier ou les apprendre ou les examiner à tête reposée. En annexe, vous aviez quelque chose sur ce cycle, n'est-ce pas, des 12 animaux et des 10 tiges célestes qui ne sont que les 5 éléments subdivisés en 2. Hein. Et avec la date de l'an 2000 pour vous repérer, et vous pouvez savoir que nous sommes cette année encore pour quelques jours, l'année du bœuf et de la terre. On est actuellement à la 26e année de ce cycle, et l'an prochain nous serons à la 27e, et donc nous serons l'année du tigre combinée avec le métal. Il faut savoir qu'au Japon, cette répartition des éléments fait que il y a une année qui est très mauvaise pour la naissance. C'est un signe très mauvais lorsque naît un enfant de sexe féminin. On dit d'elle, par la tradition, que les femmes qui sont nées l'année du cheval de feu dévoreront leur mari. Donc c'est une superstition très ancienne, mais il n'empêche que après-guerre, quand il y a eu un trou, il y a eu l'année du cheval de feu, eh bien la courbe de la natalité japonaise, il y a un joli petit trou, parce que bien des gens ont voulu éviter d'avoir un enfant cette année-là, parce que si c'était une fille, ils savaient que même si on n'y croit pas, peut-être qu'il y aurait eu des difficultés à la marier. Et enfin, toujours sur le principe de l'écriture chinoise, c'est cet exemple qu'on donne dans un fascicule d'école japonaise primaire, d'encourager les enfants à créer des caractères, et au lieu de faire un mot, le mot watari dori, l'oiseau migrateur, on en fait un seul en combinant le caractère du voyage et de l'oiseau, et c'est une création qu'on a encouragé un enfant à créer un caractère. Et après, vous avez des indications peut-être plus ardues, mais il faut être courageux si on fait du japonais, et donc vous avez des remarques sur la langue chinoise et son rapport à l'écrit, et en particulier à la fin, il y a des choses pas trop compliquées, mais qui nous montrent à quel point, c'est la page, le bas de la page 32 et la page 33, on voit à quel point ces langues sont cousines. Hein. Le mot Vietnam, Nam, que je retrouve dans Nankin, la capitale du Sud, hein, cette racine Nam, qui veut dire Sud, que je retrouvais au Japon, se prononçant Nam aussi, dans les mots composés. De même que le mot, peut-être votre génération n'est plus habituée à ce mot, mais autrefois, quand la France avait ses colonies, et en particulier en Indochine, au Vietnam, on parlait du Tonkin, une région du Tonkin. Or, le Tonkin s'écrit en caractère chinois exactement, c'est écrit noir sur blanc sur la page 33, comme Tokyo. Simplement, le nom de la capitale qu'on prononce de nos jours, Kyo en japonais, se prononce Kin en chinois, donc ça fait Pékin, enfin, je prononce mal, mais pour se faire l'idée. Peking, Nanking, Nankin, n'est-ce pas? Et puis on avait le Tonkin, To, et ça s'écrivait Tokyo. De même que Pékin s'écrit la capitale du Nord, donc Kita, le Nord, et puis Kyo. Tokyo, c'est la capitale de l'Est. L'Est par rapport à la capitale, à la fois par rapport à la capitale qui est dans le Kansai, donc à l'Ouest. Et cette appellation de Tokyo, elle est récente, hein, puisque quand le Japon se modernise au début de Meiji, on décide, on ne va pas appeler Edo encore, puisque maintenant l'empereur vient habiter là, on ne va pas rester au nom d'Edo, et on met les caractères de capitale de l'Est. Et pour la prononciation, on hésite. C'est ainsi qu'on aura le mot de... On va hésiter pendant un certain temps. On le prononcera à un certain moment « Tokai ». Et assez longtemps, on va avoir « Tokai » ou « Tokyo ». Puisque ce caractère avait deux prononciations possibles. Et c'est évidemment « Tokyo » qui va faire autorité. Donc, vous relirez attentivement ce fascicule. Et nous allons attaquer celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai réalisé un peu dans la hâte. Et je vous adresserai sans doute une petite feuille d'errata, j'ai retrouvé des petites erreurs et des petites coquilles ou des imprécisions qui sont embêtantes. On a tout d'abord un avertissement sur la question de la transcription alphabétique du japonais. Ce sont des choses que vous devez connaître puisque vous serez amené d'abord à lire parfois sous forme alphabétique du japonais pour que vous puissiez bien le reconnaître. Et d'autre part, vous-même, vous risquez de devoir un jour écrire et décrire le japonais. Donc, il faut connaître les règles de ce système qu'on appelle le système Hepburn, auquel nous nous conformons à l'INALCO. Mais vous pourrez savoir à la page 2 qu'il existait autrefois une transcription française qui prononçait, quand on écrivait CHU, c'était chou. Tandis que maintenant, si j'écris CH, c'est chou, n'est-ce pas? Mais à la française, CH, c'est comme un chien ou un chou ou autre chose. Donc, on avait une prononciation, une transcription française au 19e siècle qui a été délaissée. Mais il existe encore une autre transcription dite japonaise, dont vous avez un petit tableau sous les yeux, à cette page-là, conçu par un japonais, dans la logique de la langue japonaise, puisqu'il considérait que, puisqu'on fait a, i, u, e, o, kaki, ku, keko, donc on va écrire pareil, comme vous le voyez, j'ai souligné les endroits où il y a des différences par comparé, on est à la page 2, hein, comparé à la transcription Hepburn. Et donc, au lieu de dire chi, on écrit si. On prononce bien sûr sa chi sous ses sauts, mais on écrit sa chi et on écrit si. De même, vous regarderez vous-même des petites différences. D'autre part, la règle pour les longues, c'est de mettre soit une barre au-dessus de la voyelle qui va signifier que c'est une longue. Par commodité, on utilisera, nous, plus volontiers le circonflexe, parce qu'on le tape plus facilement. D'autre part, sachez que certains japonais préfèrent utiliser un H après. Par exemple, je vous donne l'exemple du nom propre Ito, le monsieur Ito, et parfois vous verrez, quand vous serez au Japon, un H qui se promène après certaines voyelles. Et en fait, c'est une façon d'exprimer que cette voyelle compte pour deux temps. Donc c'est O, O, c'est pas bref. Et enfin, un maintien d'usage ancien, c'est de faire au lieu de K, on prononce K, mais on écrit quoi. Dans le célèbre recueil d'histoires fantastiques de Lafcadio Hearn, qui s'appelle, le nom est mentionné ici en bas, Kaidan, des histoires de fantômes, histoires qui font peur, et on en a tiré un film que vous pourrez voir au Serpem, où il y a pas mal de films vidéo qu'on peut voir du Japon, sous-titré. Et donc, on le prononce Kaidan, mais on l'écrit Kwaidan. Moi-même, avant de faire du japonais, je connaissais ce film, et donc comme je voyais K-W-A-I, j'ai envie de prononcer ce film Kwaidan. Kwai. Ça se prononce, il y a eu un temps au Japon où on le prononçait ainsi, hein, si on écrivait, on distinguait K de quoi. Mais l'évolution de la langue a fait que cette distinction a disparu. Mais on peut avoir parfois des gens qui maintiennent l'usage ancien. Il y a une université qui se trouve dans le Kansai qui s'appelle Kwansei Gakuin Daigaku. Ils écrivent, quand ils écrivent alphabétiquement, leur nom avec un W, bien qu'on prononce Kansei. Si on laisse reposer cette question de la notation alphabétique, qui est quand même qu'il ne faut pas négliger, On arrive maintenant à l'histoire de l'écriture au Japon. Donc, c'est moins ancien qu'en Chine, puisque ça va commencer au début de notre ère. Et nous avons sous les yeux un sceau en or, petit comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien, mais à peu près de cette taille, dont on voit ensuite la face où il y a le caractère gravé en or, et puis ensuite on voit le caractère tel qu'il a été en lui mettant du cinabre rouge, une espèce de pâte, on l'a frappé. Et ce sceau, dans la première image, on le voit avec une espèce de petite, j'ai oublié, est-ce que c'est une petite tortue? Je crois que c'est une petite tortue. Hein. On a un petit endroit pour laisser passer le ruban violet avec lequel on va se l'attacher à la ceinture et on aura son petit sceau. Et c'était, dans la Chine ancienne, un titre d'autorité. Et l'empereur de Chine adressait ce type de sceau aux souverains des régions, des provinces lointaines, qui étaient censés être sous sa protection. C'est ainsi qu'on va, l'empereur de Chine, en l'an 50 de notre ère, va adresser à le souverain, vous verrez la traduction du sceau dans ce qui est écrit en dessous de l'image, le souverain des nains du pays des Wa. Puisque avant que l'on parle de Japon, les habitants de l'île, et l'île elle-même, est appelée le pays des Wa, et le caractère évoque le nain. Mais parfois, pour désigner les peuples sauvages, on pouvait mettre des caractères un peu négatifs, comme ça, un peu dévalorisants. Dans les descriptions que font les Chinois eux-mêmes, ils ne disent pas que les Japonais sont petits. Donc, que les habitants, ce n'est pas les Japonais, les Wa. Parce qu'à cette époque, ce sont des Wa. Donc, le mot Japon vient après. Toujours est-il que, en l'an 52 de notre ère, ce qui n'est pas écrit, non, ce que j'ai oublié d'écrire là, hein, c'est en l'an 50 que ce sceau va être offert au souverain des Na. Et les Na, c'est un petit royaume qui se trouvait au nord de l'île de Kyushu. Et ce sceau n'a été retrouvé qu'au 18e siècle, dans un champ dans la baie de Fukuoka. Mais il correspond tel quel à ce qui est écrit dans les récits, dans les textes historiques chinois, et par conséquent, même si beaucoup de gens ont à un certain moment tenté de mettre en doute, on a mis en doute, est-ce que c'est pas une invention pour coller avec l'histoire chinoise, mais on ne le remet plus en cause, donc il faut l'admettre. Toujours est-il qu'on voit ce mot « wa » collé à ce peuple, donc les nains, et en même temps, une hypothèse qu'on évoque parfois, c'est que peut-être c'était parce que les Japonais, quand ils disent « nous », quand on dit « moi », on dit volontiers « wa le »,« wa »,« waga ». De nos jours, il y a « watakshi », mais ce « wa » du début pourrait être le mot par lequel les Chinois ont désigné les habitants de ces îles lorsqu'ils ont commencé à communiquer avec eux. Nous passons à la page 4. Et nous voyons maintenant comment, au fil du temps, maintenant c'est énorme, hein, regardez ce qui s'est passé en un siècle en Occident, bon ben là, 4 siècles s'écoulent. Hein, donc il a pu se passer un tas de choses dont on n'a pas de trace dans l'histoire. Toujours est-il que on découvre au milieu du 4e siècle, que l'écriture chinoise se diffuse au Japon parce que il y a des troubles en Corée et la civilisation chinoise qui a rayonné en Corée commence maintenant à s'étendre en au Japon. C'est ainsi que des lignées de scribes, donc des maîtres d'écriture, des gens qui savent écrire, vont venir au Japon et puis être utilisés en tant que scribe, qu'une administration va se constituer, et bien entendu, la langue utilisée, c'est le chinois. Parce qu'on n'imagine pas écrire dans une autre langue. Mais il va bientôt y avoir, malgré tout, étant donné qu'on est sur une île où il y a des habitants qui ont une langue différente, et qu'il y a des noms propres, ou des noms de lieux, et le besoin va se faire sentir à un moment de ces noms propres, on a envie quand même d'être relativement fidèles à leur existence, donc on ne va pas les nier, ils vont exister, et ils vont exister dans la dimension de l'écrit comme l'illustration qu'on a à la page 4, où l'on voit un miroir de bronze. Ce miroir, moi je crois ne l'avoir jamais vu sous les, yeux, mais il y a énormément de miroirs au Japon. Et donc en gros, je dirais que souvent ils ont une taille un peu comme ça. Quoi, hein. Donc on montre toujours la face décorée, je n'ai jamais vu la face où on se voit, où on se reflète dedans. Souvent on montre le dos. Et j'aimerais bien voir, est-ce que vraiment on se voit bien ou pas. Je ne sais toujours pas. Des collègues m'ont dit, si, si, on se voit très bien dedans. Mais à mon avis, quand même, c'est du bronze. Donc, est-ce qu'on se voit comme dans l'eau ou est-ce qu'on se voit vraiment comme un miroir d'aujourd'hui? Je ne sais pas. Toujours est-il que, sur ce miroir, sur le pourtour, il y a des indications. Donc, il a été fait au Japon. Et dans ces indications, comme on le dit en bas, on a un nom de lieu qui est le palais d'Oshisaka. Un palais qui existait dans la région, sans doute, du Yamato, pas loin de Nara. Et pour noter le mot Oshisaka, nom d'un lieu, c'est pas Osaka, hein, c'est Oshisaka. Mais sans doute, ce mot Saka, c'est, la même, c'est peut-être la même, le même sens de la colline, hein, la montée. Et donc, Oshisaka no Miya, pour le nom du lieu, on a mis Oshisaka. En revanche, pour le nom du palais, le palais d'Oshisaka, on a maintenu le caractère chinois qui désigne le palais, Miya, que vous apprendrez sans doute un jour. Ce caractère-là, il se lit Miya, Ninomiya, Sanomiya. Donc, ce caractère du palais, on le lit Miya, mais rien n'en donne la trace. Ça, c'est plus la transcription phonétique, c'est le principe de la lecture kun, c'est-à-dire de la traduction, avec le degré d'incertitude, puisque rien ne prouve qu'on lisait Mia à l'époque, on le lisait peut-être autrement. Mais bon, de nos jours, on se dit, les Japonais de cette époque, ils ont écrit en chinois, ils le comprenaient le chinois dans leur langue, ils traduisaient, ils le et on mettait des noms propres, et puis ensuite, il fallait deviner la graphie. Donc, tout ce qui est lié à la lecture kun va laisser une part d'incertitude assez longtemps, parce que on devine les lectures anciennes. À la page 5, il y a une carte que j'avais déjà présentée dans le fascicule précédent, je crois. C'est un rappel. En particulier, on a deux dates pour l'introduction du bouddhisme au Japon. 538-552, on est en tout cas au milieu du 6e siècle. Et c'est à cette époque, ou plus exactement, vers la fin du... Oh, pardon, c'est beaucoup plus tard. Vers la fin du 7e siècle maintenant, que dans l'est du Japon, un lieu où je suis allé, un peu à l'écart, un peu retiré, dans des montagnes, on a une pierre qui est présentée page 6, qui mesure une taille un peu humaine. Ce que vous voyez à la page 6, d'ailleurs, c'est une copie en plastique. Puisque l'original, il est toujours dans la montagne, et autrefois, il était exposé à la pluie et au vent, et maintenant, on lui a mis un petit toit, une vitre, on le protège complètement, on aurait pu à bien le voir. Mais dans un musée, on le présente tel quel. Quand je dis en plastique, c'est peut-être en autre chose. C'est peut-être... Qu'est-ce qu'on utilise comme support pour faire des copies? On utilise souvent du plâtre. Non, encore autre chose. Je crois que les grottes de Lascaux, on les a refaites comme ça, entièrement. Donc c'est à l'identique, mais pour éviter que les touristes, pour que les inscriptions des grottes de Lascaux soient abîmées, on a refait à l'identique. Et ce qu'on utilise comme matière, c'est pas du plastique, ça s'appelle du fibre de. Peut-être, oui, enfin je sais plus. Fibre verte. Toujours est-il que, sur cette inscription en pierre, dont à côté il y a le tirage à nouveau sur papier, hein, en négatif donc, on a l'inscription que vous avez sous les yeux, page 5, où j'ai, à la fin de l'inscription, en caractères chinois, des caractères chinois qui se succèdent et qui, d'après les spécialistes, manifestement, ne sont pas du chinois. Ce n'est pas l'ordre de la syntaxe du chinois. Donc, ce sont des caractères chinois plaqués sur du japonais, dans l'ordre du japonais. Donc, comme vous, si vous vous amusiez à écrire avec des caractères chinois que vous connaissez, vous commenciez à écrire du français. je, vous mettez le caractère qui veut dire je en japonais. Suis, vous allez chercher comment est-ce qu'on dit être en japonais. Un, vous chercherez quelque chose qui veut dire une unité. Et ainsi de suite. De la même manière, ici, on a des caractères chinois qui sont plaqués les uns à côté des autres, dont nous avons le sens en dessous, le sens des caractères isolés. Puis, comment on devait le lire, d'après les japonais d'aujourd'hui, ils disent, on devait le lire ainsi. Aha no tameni shirushi sadamuru fuminari, dont le sens devrait être, ceci est un texte fixé par écrit pour ma mère. C'est ce que ce moine, semble-t-il, aurait écrit à la fin du texte qui est sur cette pierre. Et donc, on est en plein dans ce phénomène de la lecture kun. On traduit des caractères, on associe des caractères chinois à des mots japonais. On les traduit. Alors, on n'est bien sûr pas sûr. Quand on avait Oshisaka, on a plus de chances de deviner un peu le mot, hein, même si on peut aussi hésiter sur la vraie prononciation à cette époque. Mais, bon, on va être indulgent, on ne va pas trop chipoter. Tandis que pour lecture kun, on peut encore plus hésiter. Toujours est-il qu'à la page 6, on arrive au chapitre 3, que vous lirez attentivement, je vous en prie, et vous me poserez des questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, bien sûr, je suis disponible. N'hésitez absolument pas à me poser des questions dans les couloirs, ou enfin du cours, ou avant, ou pendant. Je suis à votre disposition et c'est avec plaisir que j'y réponds. Oui ? Mais il y a beaucoup de mots chinois dans la langue japonaise. Oui. Ah, pourquoi ils n'ont pas été colonisés et complètement... pourquoi le japonais a survécu? Ben parce qu'il a survécu. Il y a l'histoire, moi je connais, je ne sais pas très bien, mais il n'y a pas eu de... On n'entend pas parler de conflits. Comment dire? Il y a dû avoir des conflits, puisque... Comment dire? Dans la page précédente, ces miroirs de bronze, c'est quand même l'introduction du bronze au Japon. Et avant, dans le paragraphe dont on parle, on dit, hein, au début du 4e siècle, la péninsule coréenne se divise en trois royaumes rivaux. En Corée, il y a du feu, il y a du sang, il y a des invasions, il y a de la brutalité. Et ensuite, on arrive à des problèmes de réfugiés, de prisonniers, d'otages. On a des migrations qui se produisent au Japon. Le Japon a l'avantage d'être une île, et donc son insularité le protège quand même de la violence, des chocs, quand il y a des migrations brutales. Tandis que la Corée, elle, par exemple, on n'a pas de traces équivalentes en Corée de ce genre de phénomène. Alors que la langue coréenne est une langue cousine. Vous entendez les gens bavarder ou pas? Oui. C'est moi qui les vois. On m'a dit que Nathalie Kwame, ma collègue charmante, elle ne tolérait pas les petits bavardages. Alors moi, je suis trop gentil, pas assez sévère. Donc, pour répondre à votre question, en Corée, on a la seule écriture qui va être utilisée jusqu'à ce qu'ils inventent le Hangul au 15e siècle, et en plus après on va s'y opposer, c'était en chinois. Donc on a la langue coréenne qui est sous le chinois. On écrivait en chinois comme nous on écrivait en latin. Mais les gens qui écrivaient en latin, en Occident, ils parlaient la langue de leur région, hein, de leur... Donc ça ne les empêchait pas d'écrire en latin et de comprendre dans leur tête quand ils parlaient dans leur langue. Donc un phénomène un peu comme celui-ci. Mais pour parler maintenant de l'importance du lexique chinois au Japon, pendant des siècles, les Japonais vont considérer le fond des classiques chinois comme nous, le latin, sont les classiques que tout le monde apprend, on étudie. Par conséquent, longtemps, le plus grand dictionnaire de caractères chinois qu'on a en bibliothèque ici, c'est, j'ai oublié si c'est 5 ou 6 volumes, un gros, quelque chose comme ça, où il y a 50 000 caractères, il a été conçu au Japon. Et dans ce dictionnaire, pour chaque caractère, on donne les mots dans lesquels il apparaît, et ce sont tous des mots des classiques chinois. Et donc, ça, il n'y a pas de frontière, au fond. Les Japonais considèrent que ça fait partie de leur culture, ce fond du classique chinois. En revanche, face au lexique actuel du chinois parlé, du chinois vulgaire, celui qui s'est répandu dans la Chine contemporaine. On n'écrit plus en chinois classique, on ne parle plus le chinois classique. Il y a eu des évolutions en Chine, et maintenant la langue chinoise contemporaine, les Japonais n'ont pas introduit tout ça en l'état actuel de la langue. Ils ont introduit certains éléments, mais pas... Il y a beaucoup de mots qui seront ce qu'on appelle, nous, entre le français et l'anglais, des faux amis. Donc des caractères qui se ressemblent, des mots qui se ressemblent, mais qui ne veulent pas du tout dire la même chose. J'ai répondu à votre question. Autre question. Ceux qui bavardent pour se charger les idées, ils pourraient poser des questions. Non ? Ils sont forts, parce que ceux qui bavardent, quand je les pointe... Ils font exprès de me regarder. Comme si c'était pas au courant. Alors, nous arrivons au paragraphe 3 et le texte en chinois, langue du pouvoir. C'est que dès lors que cette langue va se diffuser, les autorités insulaires, dont on ne sait pas qui ils sont, est-ce que ce sont des immigrés du continent ou des natifs? Puisque beaucoup de gens pensent que finalement, même si ce n'est pas trop admis au Japon, maintenant ça l'est quand même un peu, mais au fond, à l'origine de la famille impériale, ce sont sans doute des continentaux venus de Corée. Alors, dire ça, ça aurait, avant-guerre, fait exploser, on aurait coupé la tête aux gens, là, d'oser dire une chose pareille. Puisque il y a de fortes chances que, sous l'influence de ces continentaux qui manipulaient le bronze, les épées, la puissance, c'est eux qui vont prendre le pouvoir, plus ou moins. Puis ensuite, il y aura forcément de la mixité, donc des mariages, des alliances, puis des conflits, puis à nouveau des siècles passent comme ça. Hein. Donc, il y a une sorte de mixité qui va se répandre. Toujours est-il que l'insularité fait que malgré tout, il va y avoir des synthèses qui vont se faire au Japon même, et qu'un jour, les autorités japonaises vont acquérir une certaine maîtrise de l'écrit, et dans les communications diplomatiques, puisque l'usage de l'écrit va avoir une fonction première, c'est la diplomatie, les échanges avec le continent pour acquérir des biens, pour le commerce, et puis ça va être aussi comment dominer et assurer l'imposition sur les îles elles-mêmes. Mais un jour, les autorités vont se revendiquer comme, c'est écrit ici, Jepun Kuo, ou bien Nihon Koku, nous sommes le pays, et ils vont se nommer. Ils vont refuser l'appellation de Wa, qui ne se leur semble pas agréable, et ils vont se désigner dans un courrier adressé par le souverain du Japon comme le souverain du pays d'où provient le soleil, s'adressant au souverain du pays où il se couche. Et cette lettre va faire le mécontentement du souverain chinois, qui va être très mécontent de ça, mais petit à petit, les Japonais, les Chinois, pardon, vont finir par admettre que les Japonais s'appellent ainsi. Le pays, donc, Jepunko ou Nipponkoku. Hein. Et vous savez sans doute que ce mot Jepunko, c'est le mot qui, en passant par Marco Polo, va arriver en Occident. Parce que Marco Polo, quand il va faire son voyage en Chine, vous devez lire le récit de Marco Polo en Chine, il entend parler d'un pays, le Jepunko, où il y a beaucoup d'or, et donc c'est un pays insulaire qui est un peu un pays mythique aux yeux de beaucoup de Chinois. Et c'est ainsi que ce mot Jepun va arriver en Occident, puis ensuite, oui, et c'est lui qui va se fixer, puisque au Japon, on ne dit pas Jepun, jamais. On dit Nippon, Nihon, et la lecture Jepun... Elle existe aussi, mais fondamentalement, c'est venu de Chine, cette prononciation. Et d'autre part, le caractère de Wa, dont certains de vos camarades soulignaient qu'il désigne le nain. Eh bien, les Japonais vont faire un jeu de mots dessus et mettre un autre caractère devant ce mot Wa, et ils vont utiliser le caractère que vous avez sous les yeux, qui est un caractère de base qu'il faut connaître, qui est le caractère de l'harmonie Wa, de la paix. Wa, que vous apprendrez bientôt, mais que vous rencontrerez assez vite dès lors que vous aurez un dictionnaire japonais-français, vous verrez que pour désigner le Japon, on met Wa, japonais, et puis pour désigner la France, on met le Bouddha, Futsu. puisque nous avions vu la fois dernière que pour transcrire les noms de pays, on avait mis des caractères, on avait plaqué des caractères, l'usage a disparu, mais on a gardé quand même un caractère symbole. Pour la France, c'est le caractère du Bouddha, qui rentrait auparavant dans l'élément Fu Lam Su. Ce Fu, c'était le caractère du Bouddha. Donc ceci, on va le lire Wafutsu. Wafutsu Jiten, un dictionnaire japonais-français. Si j'inverse, Futsuwa Jiten, un dictionnaire français-japonais. Voilà. Si vous tapez sur votre ordinateur ces deux caractères, puisque maintenant tout le monde peut taper des caractères chinois sur son ordinateur, ou pas? Non?
Oui.
Ici? Quand on est Mac, oui. Même si on n'est pas Mac. Donc vous devriez. Ceux qui disent non, il faut qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment, alors qu'ils devraient, et qu'ils peuvent, en théorie, sur Internet, grâce à ça, taper et aller se promener au Japon. Et si tu as Wafutsu, Futsuwa, ils trouveront un tas de choses. Surtout que moi, je ne suis pas à l'actualité, parce que je manque un peu d'intérêt pour ça, mais en réalité, sur Internet, vous avez plein de choses maintenant. Comment tracer les kana, comment tracer les kanji, il y a plein de choses possibles dans lesquelles vous pouvez vous amuser à aller un peu puiser. Petite pause de bavardage, d'accord. Normal, mais c'est normal, un petit peu. Je te l'ai. Et donc, cette époque, à partir du 7e siècle, on a un grand développement de l'écrit. Le Japon devient véritablement une terre de civilisation, se veut l'égal de la Chine. On a des lettrés, on a des textes qui sont publiés. On va avoir maintenant la capitale qu'on appelle Nara, qui va être donc un lieu où il y aura des monastères en grand nombre, des endroits où on copie des sutras, et puis une activité écrite avec des archives qu'on a conservées. Et bien sûr, le chinois, qui est la langue que tout le monde souhaite maîtriser. Même si on se doute qu'au fil du temps, on maintient l'écriture du chinois, mais déjà la prononciation est mauvaise. Il y a des professeurs de prononciation qu'on fait venir de Chine, du continent, qui sont censés corriger la prononciation des gens, mais comme les Français ont du mal à prononcer l'anglais, hein, même si on leur donne des cours avec des native speakers, de prononcer le chinois n'était pas non plus aisé. Et nous arrivons à la page 8 où nous voyons tout d'abord l'importance des textes sacrés du bouddhisme, puisque ce va être une activité majeure de cette époque ancienne et de l'activité d'écriture. Et en particulier, j'attirerai votre attention sur l'illustration, puisque nous avons là sous les yeux les plus anciens documents imprimés au monde. À la date de 764, en 764, à Nala, une impératrice a besoin d'apaiser l'âme des disparus d'un conflit. Et on n'aime pas les fantômes, hein, qui viennent parfois provoquer des maladies ou assaillir, etc. Il faut absolument les apaiser. Et souvent, la calligraphie de sutra sera liée à l'au-delà, le repos des morts, ou bien se protéger de menaces de l'au-delà. C'est ainsi qu'elle va donner l'ordre d'imprimer un millier de dharani, ces formules sacrées dont on ne connaît pas le sens, puisqu'on note phonétiquement des mots d'origine pali ou sanskrit. Et c'est dans des petites pagodes, hautes comme ça à peu près, qu'on soulève le couvercle, et dedans, il y a des petits rouleaux. Et ce sont ces petits rouleaux qui sont les plus anciens documents imprimés au monde, puisque on peut penser que l'imprimerie est née en Chine, bien sûr, mais on n'a pas de traces. Parce que les guerres, à nouveau les continents, la brutalité continentale fait que on n'a pas de traces. Donc ça a été inventé en Chine, bien sûr, mais en l'état, c'est au Japon qu'on trouve le plus ancien. Mais les Coréens revendiquent, eux, l'ancienneté, parce qu'on a trouvé après-guerre un rouleau identique dans une pagode en Corée, et il y a de fortes chances qu'en réalité, il faille de nos jours dire que le plus ancien document imprimé au monde est en Corée. Même si les Japonais considèrent toujours que eux, c'est daté, c'est très précis, tandis que le document coréen, on peut avoir des doutes sur la date exacte. Toujours est-il que, si nous tournons la page, nous voyons, oui. Parce que c'est pas, on pense que ce n'est pas les Japonais qui l'ont inventé. Non, mais l'imprimerie est une invention chinoise. Dans le reste du monde, à ma connaissance, on n'a pas inventé encore le principe de l'imprimerie. À ma connaissance. Mais vous avez raison de discuter parce qu'en réalité, à l'origine de l'imprimerie, il y a le sceau. Fondamentalement, hein. C'est... On écrit un signe et on le frappe et on peut le frapper autant de fois qu'on veut, on le reproduit. Or ça, en Mésopotamie, on l'a aussi. Donc, si on parle de, à ce niveau-là, ça existe aussi. Mais dans la mesure où on considère que le document imprimé, c'est-à-dire on a pu le reproduire à un, pas un million d'exemplaires, hein, le mot un million, c'est un chiffre, c'est comme on dirait des milliers. Hein. On n'est pas sûr qu'il y en ait eu un million, parce que ce qui a été conservé, c'est moins. Mais néanmoins, il y a eu un procédé de reproduction en grande quantité. Et le principe de l'imprimerie, c'est ça. Donc il faut attendre le 9e, 10e siècle pour qu'en Chine, on se mette à graver maintenant sur des planches et on imprime en grande quantité. Mais on pense que ce procédé-là ne fut pas inventé au Japon, ni en Corée, mais il existait en Chine. Et en Chine, bien souvent, c'est parfois par miracle qu'on a des documents anciens qui prouvent certaines choses. Mais il suffit d'un rien pour qu'on n'ait plus de traces. Donc, je pense qu'on peut penser que c'est en Chine que le procédé fut mis au point. Nous tournons la page. Nous voyons encore des écrits d'un empereur où on voit des caractères bien tracés. Et sur ce papier, sur la reproduction, on ne le voit pas bien. Mais normalement, on voit des petits points sur ce papier un peu jaune. Et ces petits points, longtemps, on a pensé que c'était des cendres humaines. Mais en réalité, ce sont des grains d'encens. Pourquoi des cendres humaines? Parce que parfois, dans les pratiques de sutra, on a souvent, lorsque quelqu'un décédait, un empereur, on recueillait tout son courrier amoureux, écrit en kana, et le papier, on le recyclait beaucoup, on le remâchait. Comme le papier était produit en grande quantité, mais malgré tout, il venait à manquer. Et quand il manquait, on pouvait reprendre les feuilles de papier utilisées et on les remâchait. Et ça donnait un papier qui était imprégné du noir de l'encre qui devenait gris. Et donc, ce papier était souvent réutilisé. Et dans les sutras d'un empereur, on écrivait un texte pour son repos et on avait toutes les émotions qu'il a vécues, les poèmes qu'il a écrits, tout ça, on le recyclait. Et on écrivait un sutra dessus. Dans certains cas, on ne le remâchait pas, on le vernissait, on le recollait, et on voit derrière les caractères du sutra des poèmes ou des kana qui sont des textes que l'empereur a écrits de son vivant. De même, à l'illustration de la page 11, je vois dans une île qui est au nord de Kyoto, de Tokyo, dans la baie de Tokyo, on a des îles assez nombreuses, un peu éloignées, qui appartiennent à la municipalité de Tokyo. Et dans ces îles, on a trouvé, par exemple, dans des fouilles, des sutras qui ont été calligraphiés sur cailloux, où on mettait un caractère par cailloux. Et donc, peut-être, un vœu des insulaires, une prière. On pouvait écrire des sutras aussi pour réaliser un vœu. Donc, on désire quelque chose, et bien, certains vont inscrire sur des cailloux, des textes sacrés, et la foi dans ces textes fait qu'on espérait quelque chose. Nous arrivons à la page 12 et nous sommes toujours à l'époque de Nala, mais nous quittons le monde du bouddhisme pour maintenant les textes qui vont être écrits comme mémoire historique du Japon. On va tout d'abord considérer le Kojiki, dont vous avez le nom. À la page 12, à la deuxième ligne, il y a le mot Kojiki, que je traduirai par mémoire, qui des J, peut-être des faits, oui, des actions anciennes, des faits anciens, achevés en 712. Ce texte, vous en avez peut-être entendu parler par ailleurs, est un récit écrit sur ordre impérial par un lettré qui va aller à l'écoute d'un chaman qui avait la mémoire des mythes anciens, qui avait véhiculé oralement, de bouche à oreille, connaissait l'histoire ancienne. Et donc, on va lui demander de mettre ça par écrit. Or, mettre par écrit une langue parlée par une sorte de sorcier ou de sorcière qui parle dans une langue un peu particulière, sans doute, et qui raconte des faits anciens, pour le lettré, ce n'était pas une opération simple. Et il l'explique dans l'introduction, comme je le synthétise ici. Et il explique que par le biais de la traduction, vous voyez le caractère chinois et le mot kun, fondé sur l'équivalence entre le lexique vernaculaire, le lexique de la langue japonaise, hein, et les caractères chinois, d'une part, on n'a pas de trace de la prononciation exacte, et de plus, il peut y avoir des petites nuances de sens qui ne sont pas justes. D'autre part, la transcription phonétique, vous avez le caractère chinois à côté « on », par le son, donc on prend les caractères chinois pour leur son, et bien dans ce cas-là, il y a un défaut fondamental, c'est que ça devient très long et pénible à lire, puisque ça fait des longues énoncés tout en longueur. Et c'est contraire à l'esthétique du chinois qui veut qu'on aille dans la concision maximale. On donne un exemple vers le milieu de la page avec Amekuni, le pays du ciel. Donc je peux l'écrire Amekuni. Pour chaque syllabe, je mets un caractère phonétique. Mais si je le mets sous la forme, si par la lecture kun, ame qui veut dire le ciel, et bien je lui colle le caractère du ciel, et puis kuni qui veut dire le pays, et bien je colle un caractère, je n'ai plus maintenant que deux caractères, et visuellement, quand on est habitué, ça parle mieux que une suite de caractères phonétiques que, bien souvent, on est quand même amené à déchiffrer, qui n'a pas une image qui fait tilt au regard. De même, un peu plus loin, vous voyez une longue suite qui est Hilo-ni-ha-no-mikoto, sa majesté, Mikoto, hein, le souverain, du Hilo qui veut dire large et Niwa qui veut dire le jardin. Donc Hilo-niwa-no-mikoto, si on le met comme ça phonétiquement, à nouveau, il faut déchiffrer, c'est un peu long, tandis que en dessous, on a en quatre caractères Hilo, le caractère Hiloi, et puis Niwa, le caractère du jardin, donc ça parle au. Ça parle tout de suite aux yeux. Et puis, Tenno, le caractère de Mikoto, c'est le caractère de Tenno, le souverain, tel qu'on l'appelle, on le nomme, au Japon. Mais à nouveau, effectivement, quand j'ai cette graphie sous les yeux, je ne peux pas savoir qu'on le lit Hilo Niwa no Mikoto. Donc c'est le paradoxe de cet usage. Et nous avons sur le côté gauche une petite illustration un peu mal... difficile à lire, mais si vous regardez globalement, c'est le passage. Je ne sais pas si on vous a parlé du Kojiki. Est-ce qu'on vous a parlé de Izanami et Izanaki? Oui. En anglais, on vous en a parlé. Oh. Eh bien, Izanami, c'est la femme d'Izanagi, hein, c'est deux divinités. Or, Izanami, elle va enfanter le feu et elle va en mourir. Et ensuite, elle va aller dans le pays de Yomi, les enfers. Et ensuite, Izanagi, il va aller la rechercher. Mais il va faire ce qu'elle ne voulait pas, il va entrer. Et il va la voir avec plein de vers de terre partout, et elle n'est pas contente. Et le passage que nous avons sous les yeux là, c'est le moment où il s'enfuit de l'enfer. Et on me dit, à ce moment-là, puis je vois le troisième caractère, 1, 2, 3, c'est Izanami. Izanagi no Mikoto. Donc c'est Izanagi qui parle. Et dans ce texte, qui raconte comment il s'enfuit des enfers et il est poursuivi par des espèces de démons hostiles qui lui jettent des choses, il en renvoie. Bref, il sort des enfers. Dans ce récit, qui est un récit captivant, on voit que par endroits, il y a des petits signes tout petits qui prennent plusieurs colonnes. C'est des endroits où on précise que les caractères qui sont lus avant, il faut les lire phonétiquement. Donc il y a des endroits, c'est écrit dans l'ordre du japonais en kun. Donc, ce n'est pas du chinois, c'est des caractères chinois, mais c'est du japonais fondamentalement. Puis, de temps en temps, on met des signes phonétiques. Parce que c'est le nom du... Là, je crois que c'est le mot Hi. Hime, peut-être. C'est peut-être le nom de la princesse, Hime. Toujours est-il qu'on me dit, à plusieurs endroits, comme ça, je vois en tout petit, des signes qui me disent, il faut lire le caractère du dessus phonétiquement. Voilà un procédé qui est utilisé à cette époque. Vous lirez les explications de la page 13 attentivement. Nous passons à la page 14. Et un autre texte important de cette époque, c'est le recueil de la myriade, puisque man, le caractère qui veut dire 10 000, je le traduis moi systématiquement par le mot l'unité, qui dans, en langue ancienne voulait dire 10 000, c'est une myriade. Donc ça équivaut au chiffre 10 000. Une myriade de feuilles, est-ce que ce mot feuille, les spécialistes en discuteront, est-ce que... Moi, je serais tenté d'imaginer que c'est un peu cette image que je vois au Japon, où le langage est comme un arbre avec des milliers de feuilles qui sont les mots. Et donc, quand on écrit des poèmes, on utilise des mots et on transmet des messages avec ces milliers de feuilles. Et ce recueil contient, est-ce que j'ai noté le nombre? Je ne suis pas sûr et je ne le connais pas par cœur. Mais bref, dans le Maiyōshū, vous avez un très grand nombre de poèmes qui ont été recueillis au Japon. Et on a recueilli des poèmes japonais. Il y a eu, à la même époque, je n'en parle pas ici, mais aussi des compilations de poèmes chinois. Symbole du rayonnement de la culture, du pouvoir à Nara. Mais à côté de ce recueil de poèmes en chinois, on a aussi recueilli dans les provinces, partout, maintenant des chants locaux. Et nous en voyons un sur le côté. Il y a son, sur l'illustration, il y a le numéro du poème, c'est traditionnel au Japon. On publie tellement de poèmes qu'on met toujours des numéros. Donc c'est le numéro 4441. Et on l'a dans une graphie qui est compréhensible par un japonais cultivé d'aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on voit en haut. Et en dessous, je vois maintenant un tas de petits signes phonétiques avec même des kanas qui sont mis à côté pour me dire qu'on le lit Tachishinaou. Puis ensuite, j'ai toute une suite de caractères phonétiques qui sont, je m'en excuse, mal reproduits, c'est un peu flou, hein. Et à côté, j'ai la traduction en langue moderne. Il signifie que Taoyakana anata no osugata o, ta superbe allure, je ne l'oublierai jamais, tant que je serai en vie et je t'aimerai toujours. Voilà en gros le sens de ce poème. Je n'oublierai jamais ton allure magnifique, toi mon héros. C'est sans doute un poème écrit par une femme à l'égard de celui qu'elle aime. Mais dans ce poème, donc, il y a parfois des poèmes qui sont écrits comme celui-ci, entièrement phonétiquement. Donc c'est un trésor, ce recueil, pour connaître la langue japonaise des temps anciens, puisqu'on va avoir un lexique quand même considérable, puisque c'est noté phonétiquement. Avec une contrainte, c'est des chants, donc c'est pas la langue parlée de façon ordinaire. C'est peut-être quand même limité à un domaine particulier. Mais dans ce recueil, on n'utilise pas que ce procédé, et on utilise aussi le procédé de Kun. Donc on aura d'autres poèmes où on aura le mot, un caractère pour désigner le mot, puis phonétiquement une particule, puis encore des caractères pour noter par le sens un mot, et on en a deviné la lecture aujourd'hui, parce que comme on sait que c'est des poèmes et que ça doit faire 5 syllabes, 7 syllabes, 5, donc on calcule. Il y a la particule ga, il y a le mot qui vient avant, le mot qui vient après. Donc on devine la lecture de ces inscriptions en kun. D'autre part, on s'est amusé dans ce recueil à noter parfois, non seulement phonétiquement, mais en jouant sur les graphies. Page 14, deuxième paragraphe, je vois que pour le mot Aki, l'automne, qui doit apparaître, puisqu'on aime beaucoup les noms de saisons, et la poésie japonaise marque souvent en fonction des saisons, on l'a parfois noté sous la forme traduite. Donc j'écris le caractère qui désigne l'automne que vous apprendrez un jour ou l'autre. À qui ? Mais parfois on l'écrit aussi avec la graphie qui est utilisée en Chine de la saison automnale. Donc à nouveau le mot à qui a deux graphies. Donc. Puis on l'utilise aussi donc phonétiquement. Et quand on écrit phonétiquement, il n'y a pas encore une autorité, une académie française ou japonaise qui dirait voilà les caractères qu'il faut utiliser. Les choses se font dans un certain désordre. Donc pour écrire à qui, on va trouver plusieurs graphies. La première, par exemple, je vois que pour le caractère de A, on a ce caractère-là. Vous savez peut-être que c'est ce caractère qui, sous la forme cursive, va donner le A du hiragana. Donc, écrit un peu rapidement, au lieu de faire ce trait, puis celui-là, puis celui-là, je vais directement faire ça, et hop, je m'en relie à l'ensemble. Ça donnera le hiragana A. Or ici, on n'en est pas encore là, mais déjà on utilise volontiers le signe qui va me donner ce A, n'est-ce pas ? Je l'ai acquis, puis une autre graphie qui utilise un autre signe. Qui est celui-là. Alors quand j'ai le dos tourné, ça fait écho le tableau, j'entends encore plus les bavardages. C'est vous qui m'avez dit d'être sévère. Mesdemoiselles, on me dit d'être sévère. Donc moi j'aime pas, mais en même temps il faut que je me mette à la place de vos camarades. Et donc si vous bavardez trop, il faut sortir. Donc comme il faut sortir, c'est moi qui vous ordonnerai de sortir la prochaine fois. Je comprends très bien. Hein. Si vous avez envie de bavarder, il faut sortir. Vous prenez un café, les choses se passeront très bien et vous irez au prochain cours en pleine forme. Tandis que si vous bavardez pendant ce cours, vous nuisez à vos camarades, vous me nuisez à moi qui dois élever la voix en plus, et me fait perdre du temps, je suis obligé de faire des espèces de préchi-précha. Alors, l'autre graphie de Haki que je trouverai dans ce recueil, c'est maintenant ce A. Et ce A, sous une forme abrégée maintenant, c'est lui dont je vais utiliser d'abord que ça, qui va devenir, écrit un peu plus vite, l'élément A du katakana A. Donc ils sont déjà présents dans ce texte. Et en plus, c'est pas tout, parce que on aura encore d'autres graphies, comme par exemple, on va utiliser le caractère du métal pour écrire l'automne. Car les cinq éléments se marient aux quatre saisons et du coup, on peut très bien, comme le métal est associé à l'automne, on verra ce caractère.
Oh qui... Mais ça veut dire quoi, il y a 10 secondes là ? On se tait maintenant, vous sortez ! Vous êtes des gosses ou quoi ? Vous avez 10 ans ?
Merci. J'ai un assistant. Merci. Donc, on aura ce type de graphie ludique. C'est pas, maintenant, on prend un plaisir à écrire, on associe et on écrit comme une sorte de devinette le caractère du métal. De même pour le mot koi, qui se prononce ainsi aujourd'hui, koi, qui veut dire l'amour. On va utiliser phonétiquement une graphie qui va se prononcer koi, mais on va utiliser deux caractères chinois dont l'un, ko, évoque la solitude. Et chi évoque la souffrance. L'amour, c'est le fait de se sentir seul et de souffrir. Et donc, on va avoir des jeux de mots, de graphies, qui vont créer ce qu'on appellera de nos jours des stratégies. Donc, on plaque sur le mot des caractères phonétiques, mais en même temps, on essaie de leur donner un sens. Enfin, toujours dans ce texte, on va voir un certain nombre de cas où on détecte que sans doute les gens, non seulement les lettrés ou les fonctionnaires apprenaient à écrire sur des planchettes de bois, hein, souvent ces poèmes ils les ont recueillis eux-mêmes dans des provinces, parfois ils n'avaient pas de papier, sur des planchettes de bois, ensuite qu'ils effaçaient puis qu'ils recommençaient à écrire, et c'est aussi sur ces planchettes qu'ils apprenaient à compter. Ils apprenaient les tables de multiplication. Et il fallait compter. Parce qu'on écrivait bien souvent dans les provinces pour recueillir les impôts, recueillir les taxes, le papier, hein, la soie, tout ce qu'on voulait recueillir, le sel, des provinces, et par conséquent, il fallait savoir compter. Or, je vois que dans pas mal de mots, comme par exemple le mot nikuku, qui veut dire difficile, ou bien nikushi, c'est aussi haïr, hein, nikuku, donc quelque chose de désagréable. Pour écrire nikuku, on écrit ni avec le caractère de deux, ni. Et puis ku, je vois kuku, qui veut dire 9-9, 2 fois 9. Et ce mot-là, il n'est pas écrit 2-9-9, il est écrit ni hachijuichi, c'est-à-dire 2 et 81, c'est-à-dire 9 fois 9. 2 fois 2 et 81. 9 fois 9, ni coucou. Le mot coucou est une. Le mot coucou est encore connu de nos jours, hein. C'est l'étape de multiplication. Et donc coucou, c'est 80. Et donc, au lieu d'écrire coucou, on a écrit Hachijuichi, 80. Et donc, à nouveau, ça tient de la devinette, mais c'est aussi le témoignage du fait que cette activité donc, de savoir compter, de connaître ces tables, était importante. On arrive maintenant à un document. Le document dont je viens de parler, le Manyoshu, il est, sur papier. Et en fait, l'exemplaire le plus ancien qu'on ait date d'un certain temps. Hein. Par recoupement, on considère qu'il est fidèle à l'original qu'on ne possède pas. En revanche, maintenant, nous voyons des choses sur pierre, à la page 15, et on a, mais à nouveau, la qualité de mes reproductions n'est pas excellente, il faut deviner, dans la première image du dessus, un pied de Bouddha. On a reproduit la trace de pied du Bouddha. Dans la foi, dans le bouddhisme, il y avait une foi dans la trace du pied du Bouddha, elle est sacrée, elle porte bonheur. Bref, on l'avait reproduit, et surtout que dans son pied, il y a un tas de petites choses qui sont écrites, et des petits cercles, bref, ça porte bonheur. Toujours est-il que des moines chinois ont rapporté de Chine, ont rapporté d'Inde, la trace du pied du Bouddha, qui se trouve de nos jours au Yakushiji, un monastère qui se trouve à Nara. Et des moines ont écrit des poèmes, des odes à cette copie du pied de Bouddha. C'est ce que nous avons à la page 16. J'ai traduit une de ces odes, la première. Elle est écrite phonétiquement. Je vous laisserai regarder ça tranquillement à la maison. On a donc des caractères chinois à la suite des uns des autres. Si je transcris sous forme alphabétique, maintenant, en isolant un peu les mots que je devine derrière, mi, honorifique, ato, la trace, et maintenant, j'ai tout mon poème. Je le traduis maladroitement. Son de la pierre sur laquelle on grave la sublime trace parvient jusqu'aux cieux et fait même trembler la terre pour nos pères, pour nos mères, pour tous les êtres humains. C'est le poème. Ensuite, j'analyse et je vois un certain nombre d'unités lexicales que je retrouve aujourd'hui, que je peux apprendre quand je fais du japonais contemporain. Mi, c'est un suffixe honorifique que je vais retrouver dans certains mots comme Mikado, mais il y en aura d'autres. Ato, c'est un mot que je vais apprendre en première année. Tsukulu, fabriqué. Ishi, tous ces mots, ils sont là dans ce poème. Ensuite, j'observe maintenant que les caractères qui sont utilisés phonétiquement ici, un certain nombre d'entre eux sont les matrices soit des hiragana, comme le premier, mi, le caractère qui veut dire beau, mi, qui est utilisé phonétiquement dans ce poème, dans la transcription de ce poème. En cursif, il va donner le mi du hiragana. Le katakana, c'est différent. De même, je vois le a, le to, et ainsi de suite, un certain nombre de signes qui sont déjà les matrices des futurs kana. Donc on voit que c'est en désordre. Parfois, c'est la même matrice, aussi bien pour le hiragana que le katakana. Parfois, c'est différent. Et ça, à nouveau, si vous me demandez mais pourquoi c'est pas les mêmes, c'est parce qu'il y avait pas une autorité qui disait il faut faire comme ça. Ça se faisait au fil de l'usage. Et donc, il n'y a pas quelqu'un qui est venu dire il faut rationaliser. Il faudra attendre, on le verra plus loin, 1900, pour que, dans la perspective du monde moderne, on décide à l'école, dans l'école primaire, que désormais, on l'a, vous l'aurez, ben, parce que ça intrigue certains. Vous allez à la page 71. En annexe, nous avons là, c'était un peu difficile à lire parce qu'on le lit verticalement, on partira de la On le lit horizontalement. On partira donc de la gauche en haut avec le I. I, puis ensuite on aura le lo, et puis le ha. Vous voyez le ha qui remonte après, hein. Ha, ni. Donc dans l'ordre d'un poème qu'on va examiner, ilo, ha, ni, o, eto, on a les différentes variantes de hiragana qui étaient utilisées avant qu'en 1900, le ministère de l'éducation décide, maintenant pour I, il n'y aura plus que le premier, et pour ha, il n'y aura plus que de même le premier, et on élimine les autres. On dit on ne doit plus les enseigner à l'école, on doit maintenant rationaliser, et pour chaque syllabe, il n'y aura plus qu'un signe. Alors qu'auparavant, et dans la bonne éducation des jeunes filles en particulier, il était de bon ton de faire varier la graphie, de montrer qu'on savait varier le plaisir le plaisir de l'esthétique. Et donc, plutôt qu'utiliser toujours de façon mécanique la même graphie, on utilise une autre variante. Et quand les jeunes filles apprenaient un certain nombre de poèmes comme bagage culturel, il fallait savoir les calligraphier de façon variée. Donc nous revenons au 8e siècle, nous sommes à Nara, et au Shosoin, qui est le trésor où on a conservé les biens de l'empereur et de l'impératrice qui ont fait construire ce fameux Bouddha qui se trouve au Todaiji, un Bouddha de bronze qui fait, je crois, 16 mètres, très impressionnant. Et on a ensuite tous les trésors qu'ils avaient accumulés, on les a conservés précieusement jusqu'à nos jours. Et dans ces trésors, on a conservé par mystère deux lettres que je reproduis ici, qui ont été conservées non pas parce que ces lettres avaient un intérêt, mais parce que, comme le papier venait parfois à manquer, on utilisait le dos du papier pour écrire un document portant acte de quelque chose d'important qu'il fallait garder. Et donc, le dos a été conservé sans le vouloir, et donc on a retrouvé ce type de lettres face auxquelles les spécialistes japonais ne peuvent pas dire clairement qu'est-ce que ça veut dire. C'est donc là on a de la prose, on n'a plus de la poésie, et on a donc on le lit bien sûr de droite à gauche, hein, et donc je l'ai transcrit la première horizontalement avec les katakana, l'alphabet qui va avec, hein. Futa tokolo no kono kolo no. Donc on a du lexique qu'on peut reconnaître, et puis on en a une autre, à nouveau je l'ai transcrit telle quelle, et donc ces deux lettres sont un peu mystérieuses. La seconde, on pense qu'il y a une histoire d'esclaves, d'échange de domestiques ou d'esclaves, tandis que pour la première, il est question de riz et de personnes qui se sont saoulées avec un alcool. Donc les spécialistes ne comprennent pas trop, c'est une langue un peu étrange. Donc c'est témoignage sans doute que, outre la langue canonique de la poésie qu'on a réussi à bien analyser, il y avait une langue, des usages linguistiques qui, concrètement, étaient plutôt mystérieux. Et nous arrivons à la page 20, et nous voyons un point très important avec l'illustration qui suit. C'est le principe, disons, de donner une taille différente aux signes à valeur phonétique, en plus petit, et les signes pris pour leur sens, qui seront en plus grand. Et si je fais ce petit décalage, j'ai maintenant ce que j'ai quand je lis du japonais courant, j'ai visuellement, nettement, me saute aux yeux l'écart entre des signes un peu denses dans leur tracé, puis d'autres qui sont très dilués, qui sont les kana. Et pour une écriture rapide, c'est très commode, puisqu'on dit, est-ce que c'est vrai, ça discute, mais on dit parfois que le japonais est très commode pour l'écriture rapide. Il suffit de parcourir ce qui est en caractère chinois assez rapidement, et on laisse tomber tout ce qui est en kana. Et on a, en quelque sorte, au moins, on sait de quoi on parle. Donc, ce procédé-là, on le trouve dans des documents qui avaient vocation à être lus oralement. Donc, l'empereur, quand il formulait un édit, bien souvent, c'était écrit magnifiquement en chinois, avec des sceaux, et c'était un édit qui était sous forme écrite. Mais il y avait besoin aussi, parfois, de faire des édits destinés à être proférés oralement. Et donc, dès lors qu'on doit proférer oralement quelque chose, on a besoin d'indiquer précisément comment on doit le lire. Et pour aider à cela, on a un style de langue qu'on appelle, comme c'est marqué dans la légende de l'illustration, semnio, les proclamations impériales orales, donc qui sont sous ce format. Et donc vous en avez un petit extrait horizontalement où on a le caractère de tenno tout d'abord qui se lit ici sumela, puis le caractère ga, puis vous l'avez en gras, toutes les parties qui sont notées en petit avec une vocation phonétique, et je me trouve déjà en quelque sorte devant la structure du japonais contemporain où j'ai un type de signe et puis un autre, et j'ai un contraste entre eux qui fait que je reconnais les ah, ça c'est des kana, ça c'est des kanji. Donc dès cette époque, on a ce procédé qui s'est mis au point pour, d'une part, les senmyo, ainsi que ce qu'on appelle les nobito, vous trouvez le mot à la deuxième ligne du premier paragraphe, les prières adressées aux dieux, aux divinités du Japon. Donc on prie, et donc on a des textes qui sont aussi écrits selon ce procédé. Donc dès le 8e siècle, nous avons presque mis en place les éléments qui vont faire le japonais d'aujourd'hui. Maintenant, nous passons à une question plus délicate et rebutante, même par certains côtés, à la page 21. C'est ce qui va se passer à la fin de l'époque de Nara, avec en 794, on quitte Nara. L'écho de ma voix. Le pouvoir s'éloigne des trop puissants monastères, et ce déplacement de capitale serait lié aussi à ça. Il y avait une grande présence du bouddhisme, et le désir de changer de capitale aurait pu être lié à ce désir de s'en libérer. Surtout qu'un moine avait tenté de prendre le pouvoir en étant le conseiller d'une impératrice, et son passant ses nuits avec, et donc on craignait qu'un moine le tente de devenir empereur. Toujours est-il que c'est à cette époque qu'on commence à édicter des critères stricts pour l'ordination des moines, qui se faisaient un peu en désordre, et que l'on va imposer la prononciation correcte du chinois contemporain aux yeux des japonais de cette époque. Puisqu'il y a des échanges diplomatiques avec la Chine du Nord, et on envoie des ambassades, et on constate que les ambassadeurs, quand ils reviennent, ils disent « Mais attendez, ce qu'on parle ici, ce qu'on apprend ici comme étant du chinois, ça ne sert à rien en Chine, on ne peut pas communiquer avec. » Donc, il y a un désir de modifier la prononciation du chinois et de l'adapter. C'est ainsi que sont condamnées les prononciations anciennes, qui remontait pour certaines d'entre elles au IVe siècle, au temps où c'est venu de Corée, et donc il y a eu des prononciations des caractères chinois dans un grand désordre, et on a tenté d'y mettre de l'ordre. Mais, et c'est ainsi que plusieurs édits impériaux, à cette époque, fin Nara, début Heian, vont demander à ce que les moines, pour entrer dans les ordres, devront prononcer correctement, ils devront être capables de prononcer des sutras de façon correcte. De même, pour les lettrés, on exige de ceux qui passent les concours aussi qui prononcent, et on va vérifier les prononciations. C'est ainsi que, mais, on est au deuxième paragraphe maintenant, ces nouvelles prononciations vont être l'apanage d'une petite élite lettrée qui ne parviendra pas à l'imposer à tous. Car, outre les communautés bouddhiques qui ne pouvaient renoncer d'abord aux transmissions du maître, hérité de leur maître, donc ils restaient dans la filiation de leur hérité de leur maître, et ils ne voulaient pas changer de prononciation. Et d'autre part, on avait maintenant des mots qui étaient entrés dans la langue orale, et on ne peut pas, avec une décision politique, abolir du lexique. Voilà pourquoi on va se retrouver avec plusieurs couches de prononciation qui vont coexister. Ce qui n'existe nulle part ailleurs, ni en Corée, ni en Chine. Au Japon, on va se retrouver avec les plus anciennes, auxquelles on va donner le nom, retenez ce mot, de gon. Les prononciations dites des wu. Puisque go, ça indique une région. C'est quoi ce petit bruit? Il y a des gens qui font du... C'est la porte finalement qui claque. D'accord, vas-y, claque. On serait au Japon, on pourrait dire que c'est les petites clochettes qui en été ont fait sonner les petites clochettes pour se rafraîchir. Parce qu'un petit coup de vent fait sonner la clochette, donc on se dit, ah, un peu de vent, donc de la fraîcheur. Donc ça associe le... Et comme, on fait, comme il fait un peu chaud ici. Donc, Gong, prononciation des Wu, un royaume un peu au sud, un peu au bord de la mer, de Chine, et ce n'est pas la prononciation du chinois du nord. Donc, on a donné ce nom aux prononciations révolues, condamnées. Tandis qu'on a appelé Kaon, comme on appelait les kanji, les caractères chinois, donc Kaon, la prononciation correcte du chinois, la prononciation exacte. Donc on a ces deux prononciations, l'une officielle, l'autre rejetée, mais bien que rejetée, elle ne va pas être éliminée. Et bientôt, on va avoir des édits qui vont dire, finalement, on est obligé de tolérer. Et on va se retrouver avec un lexique de base très populaire, des mots très simples, comme par exemple le mot Niku, la viande. Niku, c'est un mot chinois, c'est-à-dire la viande. C'est un mot Gong. Mais ce mot avait dû quitter la sphère de l'écrit, il était rentré dans la langue, même les Japonais savent plus. Il y a des mots comme Uma, hein. Les Japonais ne savent pas que c'est un mot chinois. Ils pensent que c'est un mot japonais. Uma, on a l'impression que c'est japonais. En réalité, ça vient de Ma, du cheval, Ma. De même, Ume, le prunier, la prune, ça vient de Chine à nouveau. Donc, il y a des mots qui sont venus de Chine, les Japonais, les croient japonais. Hein. Toujours est-il que le mot dont je parlais, qui était le mot Niku, la viande, peut-être certains croient que c'est presque un mot japonais. Hein. Toujours est-il que c'est un mot en lecture Goon, et qui, alors que c'est Jiku en Kaon, et c'est pas du tout utilisé le mot Jiku, personne n'utilise. C'est caduque, c'est presque. Il y a des prononciations, c'est une des difficultés, nous, quand on apprend le japonais, est-ce que c'est utile de connaître cette prononciation ou non? On ne sait pas. On voit dans le dictionnaire qu'elle existe, mais on ne sait pas trop à quoi elle sert. Alors un jour, on la rencontre dans un mot, donc on dit « Ah oui, donc je l'apprends. » Donc il vaut mieux apprendre des prononciations dans des mots que isolés, puisque isolés, ça peut être finalement assez théorique et on ne la voit pas souvent. Et comme chaque caractère aura une lecture, souvent une ou deux, comme ça, lecture venue de Chine, vous apprenez ce que vous pensez d'apprendre, bien sûr, hein, mais il faut facilement les associer à un mot pour savoir dans quel mot il se prononce comme ça. Car il n'y a pas de critères. Après, la diffusion des lectures Goon et Kaon, il n'y a pas de critères. Simplement, ce qu'on peut savoir, c'est que donc des mots populaires, de base, comme ça, comme la viande, et d'autre part, le monde du bouddhisme, les monastères de Nala, qui sont restés à Nala, hein, quand le pouvoir est parti à Heian, dans les monastères de Nala, on a maintenu les traditions. Et donc, on a maintenu les lectures Goon, et jusqu'à nos jours. Et certains monastères associés à Heian, eux, ont adopté quelque temps les lectures Kaon, puis finalement vont un peu les abandonner. On ne lit pas un sutra, en général, de nos jours, en lecture Kaon. Dans les lectures Goon, par exemple, vous entendrez beaucoup de prononciations comme Myo, Bo, Go, tandis que Kaon, c'est Mei, Ke, Se. Tout à l'heure, je disais Tokyo, Kyo, c'est Goon. C'est pour ça qu'on n'en voulait pas, d'ailleurs, au début de Meiji. Tokyo, c'est Goon. On préférait Toke, Ke, c'est Kaon. Et donc les sons Ke, E, E. Quand on entend réciter les sutras, on entend Namyoho, le Muto, Bo, Lo, Bo, Cho. On entend beaucoup de O. Et les O, c'est plutôt les Goon. Tandis que E, c'est pas. Alors le monde du confucianisme, là, c'est des Kaon. Puisque c'est le monde de ce qu'on enseignait dans l'administration, chez les fonctionnaires dépendants du pouvoir, la médecine, qui va être associée encore au Kaon. Donc toute l'administration, après, ces deux mondes vont exister avec des mots qui circuleront entre les deux. Et au début de Meiji, quand le Japon va renouveler son vocabulaire, on va traduire beaucoup de choses de l'anglais ou des langues occidentales, on va créer des nouveaux mots ou les rénover pour traduire le mot liberté ou démocratie ou pensée ou je ne sais pas, ou l'individu. On va chercher des mots parfois dans le fond du bouddhisme et puis parfois les réutiliser dans un sens nouveau. Et donc parfois, on va les mettre en lecture Kaon, qui seront bien sûr la prononciation adoptée en général par les élites de la classe des Bushi, des guerriers lettrés, qui seront ceux qui vont devenir les intellectuels du Japon moderne. Donc on aura... Oui.
Un japonais qui va au temple ne peut pas comprendre ce que les moines
racontent. Ah, de toute façon, on ne comprend pas. C'est comme le latin. À la messe, on ne comprend pas. De la même manière, mais attention, ceci dit, il y a des petits sutras que certains japonais connaissent par cœur. Ils le récitent, ils l'ont appris, mais ils le connaissent par cœur. Les moines, eux, ils sont censés, s'ils ne sont pas paresseux, pouvoir les lire en rythme, avec quelque chose qui marque le rythme. Mais on ne comprend pas, effectivement. On peut reconnaître des mots. On peut identifier dans le flux musical, de temps en temps, des termes bouddhiques qui sont plus ou moins connus de tous. Et donc, alors ça c'est là, ce qui fait qu'on va avoir pratiquement, pour les caractères que vous allez apprendre, en général, parfois, heureusement, lecture gon et kan, c'est la même. Donc on n'en parle pas. Mais, en général, c'est pas la peine de retenir que l'une est kan et l'autre est go. Au fond, ça on s'en fiche. Vous retenez qu'un caractère, il se prononce, il a deux prononciations d'origine chinoise. Par exemple, le cheval, je sais qu'il se prononce parfois ma, parfois ba. Bon, ben je sais ça. Peu importe de savoir lequel est gon, lequel est kan, on s'en fiche. Mais il faut connaître le principe. Pourquoi il y a deux prononciations? D'autre part, je n'en parle pas ici, je crois, j'ai oublié d'en parler, mais il y a aussi les prononciations erronées qui vont s'imposer dans l'usage. Donc c'est encore une autre catégorie. Dans un dictionnaire de caractère chinois, on mettra un autre mot pour dire ça, c'est une prononciation fausse, une faute, mais elle s'est imposée, et donc toujours tout le monde fait la faute, donc bon, elle existe. Et enfin, à partir de l'époque de Kamakura, il n'y a plus d'échange officiel avec la Chine. Puis en plus, le pouvoir impérial connaît un déclin. Ce sont les guerriers de Kamakura qui sont au pouvoir. Il y a l'invasion des Mongols. Les relations avec le continent sont plus compliquées, moins intenses. Mais il y a toujours des moines, en particulier de l'école du Chan, du Zen, qui viennent au Japon. Il y a des échanges commerciaux. Et il y a du lexique qui va quand même régulièrement pénétrer au Japon, et à nouveau le chinois a évolué. Et maintenant, parfois ça vient plutôt du sud. Et donc on va avoir de nouveaux mots qui arrivent et qui auront des prononciations encore différentes. Et ces prononciations-là, on les appellera des tones, prononciation des tangs. Ou encore soon, prononciation des songs. Par exemple, est-ce que vous avez appris à dire le mot chaise?
Isu.
Eh bien, le caractère de Kodomo, l'enfant. Ce caractère-là, l'enfant, il va être utilisé dans le chinois de cette époque avec la prononciation sou, et on va le coller à plein d'immeubles, à plein d'objets. Il n'a plus le sens d'enfant. Pourquoi? J'en sais rien. C'est parce que le chinois est monosyllabique à son origine, mais dans l'usage, les mots, c'est quand même des bisyllabes. Et donc, on a rajouté cet élément sou après on l'a rattaché souvent à des meubles, à des unités de ce type. Donc, isu la chaise, tansu la commode, et puis d'autres ainsi. Donc, c'est des mots chinois qui arrivent au Japon et qui sont pris tels quels, et donc adoptés. Mais ces prononciations-là sont ponctuelles pour quelques mots. On n'a pas une série maintenant complète de prononciations. Toon, ce sont quand même des sons qui étaient exotiques pour les Japonais, qui ont été perçus comme des mots venus de Chine et qui n'ont pas constitué une couche comme les deux autres. À côté de cela, on a bien sûr les lectures kun, mais ce qu'on appelle lecture kun, j'espère que vous avez compris à partir de ce qu'on a vu précédemment, que le mot kun veut bien dire traduire. Donc on traduit en japonais un caractère d'une langue différente qui est le chinois. Donc ce caractère qui a une forme d'un carré, là, je dis, c'est kuchi. Pour un japonais, je le traduis kuchi. Si je faisais une lecture kun en français, je dirais, ah ben ce caractère-là, c'est la bouche. Quand vous discutez entre vous en préparant un cours, vous dites, ah, c'est le caractère de la bouche. Et là, vous faites une lecture kun en français. Le mot kun a ce sens. Le mot kun signifie fondamentalement expliquer quelque chose en chinois. Il a le sens de commenter, d'expliquer. Donc j'explique un caractère pour que je le comprenne, je le comprends dans ma langue. Donc c'est kun. Donc on l'appellera kunyomi, la lecture qu'on appellera, peut-être que je n'utilise pas le mot de traduction, on dira la lecture japonaise, en japonais, et puis onyomi, la lecture sino-japonaise, puisqu'on se fonde là sur la Onyomi, sur la prononciation censée venir être venue de Chine, mais déformée, avec des gon, des kan, des ton, et même des prononciations qui ne sont pas enregistrées dans les dictionnaires de caractère chinois d'aujourd'hui, alors que c'est des mots courants. À la page 22, à la fin de la première liste, entre parenthèses, j'ai ouvert une parenthèse sans la finir d'ailleurs, ça fait partie des petites coquilles qui sont trop nombreuses dans ce document, il y a le mot gyoza. Si vous êtes un peu en contact avec le Japon, comme un mot très ordinaire, il y a des choses qu'on mange pour pas cher, il y a ramen et puis gyoza. Et bien gyoza, c'est le caractère de l'enfant que je prononce za. Or, dans aucun dictionnaire, on m'indique que ce caractère-là se prononce za. C'est considéré encore aujourd'hui comme un mot exotique, un mot venu du chinois, donc qui n'est pas encore rentré, qui est encore un mot chinois, et donc pas enregistré dans un dictionnaire. D'autre part, nous voyons, on en profite là, mais de façon isolée, donc ce n'est pas très enrichissant. On voit à la page 22, des go-on, donc peut-être ça se discute, 7e siècle, avant le 7e siècle, hein, go-on. Et puis kan-on, 8e, 9e, 10e, à nouveau c'est difficile à fixer. Puis après, to-on, mais c'est beaucoup plus rare. Donc pour le caractère de aller, il se prononcera gyo dans les prononciations bouddhiques, par exemple, alors que je le trouverais plutôt sous la forme ko dans des mots de l'administration ou d'autres, ou philosophiques de l'époque moderne. Et puis an, qui sera très rare, comme des exceptions qu'il n'y a pas lieu d'apprendre. Mais je vous renvoie maintenant à la page 22 en bas, où il y a deux caractères chinois. C'était pas assez lisible ce document. Mais il y a le caractère de aller et puis le caractère de homoi. Il y en a deux là, côte à côte. Et en dessous, on a leur prononciation dans des mots. Donc c'est dans des mots qu'il faut les regarder. Donc, gon du caractère aller ou faire, hein, ce caractère-là a deux sens. Hein. Aller, puis après il a pris de sens. Le caractère chinois lui-même dessine un carrefour. La forme ancienne, c'est un carrefour. Donc, le fait de suivre une voie, de progresser dans une voie. Donc, progresser dans une voie, c'est bien sûr aller, mais c'est aussi agir. Donc, c'est les deux sens fondamentaux de ce mot. Donc, en go-on, je le trouverai dans le mot shunyo, qui est un terme bouddhique qui veut dire les austérités. Hein, le fait de pratiquer des austérités, s'asperger d'eau froide, se baigner sous des cascades en plein hiver dans la neige. Et on peut encore en faire toutes sortes d'autres, moins difficiles peut-être. Kan, le mot koi, pour l'acte. C'est un mot, je ne sais pas de quand il date, mais c'est un mot qui peut-être a été rénové au début de Meiji, quand on a dû parler de droit et l'acte gratuit, le concept d'acte tel qu'on l'interprète en philosophie occidentale, et dans ce cas-là, on le lit ko, avec accompagné de i. Et puis, le mot anga, vous voyez, on n'a pas beaucoup besoin parce que c'est un pèlerinage avec une faute d'orthographe sur le P d'ailleurs, n'est-ce pas? C'est un P, ça doit être un accent grave et non pas aigu sur pèlerin, et puis pas d'accent sur le. Et pèlerinage impérial anga, c'est pas un pèlerinage ordinaire. Et donc, je vois qu'il y a en contexte, dans des mots, des cas où je dois lire d'une façon ou d'une autre. Pour regarder toujours à la page 22 les chiffres, qui sont des données concrètes, hein, j'ai le mot ichi. Quand je compte isolément, je dirais toujours ichi. Je dirais jamais itsu. Mais en composé, parfois, je verrai itsu. Yu itsu no, dans des mots composés où il y aura l'unité 1, dans des mots, ça sera la lecture kan, administrative, officielle, confucianiste, qui va. Le mot ichi, il était dans la base, il a dû rentrer profondément dans le japonais parlé, on n'a pas pu le déloger. De même, pareil pour ni. Ni, je vois qu'il y a une lecture go-on qu'il n'y a pas besoin d'apprendre. Exceptionnellement, un jour, vous rencontrerez ji, mais d'ici là, vous avez le temps. En revanche, je vois que pour 3, pour 4, pour 5, c'est la même prononciation. Pour loku, 6, à nouveau, petite variante. Loku, go-on, donc bien. Et puis liku, plus rare. Shichi, courant. Shitsu, plus rare. Hachi, courant, hatsu, plus rare. Ku, kyu, ah ça, là ils sont embêtants ces deux-là. Non, c'est gaspillé ça. Parce que là, ils sont concurrents, eux. Ils sont à égalité quasiment. On ne sait pas jamais ce qu'il faut dire. 9h, je dis quoi ?
Kouji.
Et puis. Quand est-ce que je dis Q alors ? Pardon ? Ah oui, quand on compte. Kyujaku. 900, hein. Non pas Kyujaku. En même temps, c'est pas très grave. Hein, parce que si vous communiquez avec un japonais, dans l'ensemble, il va deviner. Il trouvera ça un peu curieux, un peu maladroit, mais on comprend. Hein. Donc, si même si vous dites il est Kyuji, il est 9h, on vous dira Kyuji. Et enfin, Jitsu. Alors, Jitsu, lui, a disparu et c'est Jiu qui domine. Et enfin, nous quittons cette question sur laquelle nous reviendrons au second semestre, bien sûr, et nous arrivons à la naissance des katakana. Et pour aller à la naissance des katakana, que nous avons à la page 24, sous la forme d'un tableau, dont on me dit d'ailleurs sur les côtés, c'est la liste qui a été fixée en 1900. Avant, il y avait moins de variantes pour les katakana, parce que les katakana n'ont jamais été considérés comme un genre d'écriture digne d'être une expression calligraphique recherchée. Les katakana, c'est des signes usuels, basiques, pour écrire de façon simple. Ça n'entre pas dans le champ de l'art d'écrire, comme les hiragana. Par conséquent, il y a eu moins de variantes. Ça a été assez rapidement unifié. Et donc ici, je vois verticalement A, I, U, E, O. Donc, je vois les kana, je vois les kanji, pardon, les caractères chinois, d'où proviennent chacun des katakana, même si parfois il y a des discussions sur le signe d'origine. Il y a parfois des désaccords entre spécialistes. Ici, il y a une version de l'explication de ces formes. Et un des exemples les plus anciens de l'usage de ces kana, c'est à la page 25, un texte qui a disparu dans le bombardement de Tokyo de la dernière guerre, mais dont on a gardé des photos, donc on possède quand même, et qui était le prêche d'un moine qui devait sans doute, non seulement les moines devaient réciter ces textes que personne ne comprenait, mais si personne ne comprenait rien, à la fin les gens ne venaient plus au monastère et ne donnaient plus d'argent aux moines pour se nourrir, et donc il fallait quand même qu'ils s'adressent en termes compréhensibles à la population pour leur expliquer à leur niveau ce qu'on pouvait leur dire de la philosophie, de la pensée, du monde, du bouddhisme. Et donc, il fallait bien parler dans leur langue, avec des mots du bouddhisme, il fallait acclimater à un public qui parlait la langue de l'archipel. Et c'est ainsi qu'on a ce document, qui est peut-être le plus ancien, où on voit au milieu, par exemple, on voit des signes un peu grands, puis d'autres sur les côtés en petit. Ça reprend le principe qu'on avait vu tout à l'heure du Semyogaki, écrit comme les édits oraux, où on a en plus petit, et maintenant ce qui est en plus petit devient des katakana. Et donc on a des petits signes qui sont très proches maintenant des katakana. Et le passage du début est très impressionnant parce qu'on dit que au bord du chemin, il y a couché. Il y a le mot chemin tout en haut. Hein. Je ne sais pas si vous voyez là au milieu, Michi, le caractère de la voie. Il y a un individu qui est couché, qui a la peau atteinte de tumeur, qui fait la grosse commission et la petite commission sous lui, et qui sent très mauvais, et les gens qui passent ne veulent pas s'arrêter, et passent très vite, tandis que le Bouddha vient, lui, et nettoie ses plaies. Donc on a un discours à prêche, et c'est sans doute un brouillon de prêche d'un moine qui doit encourager les gens à la foi dans le bouddhisme et donc leur explique la bienveillance infinie du Bouddha. Et on a là une sorte de brouillon pour le texte qu'il va devoir dire oralement ou lire ou dire en public devant comme une sorte d'aide-mémoire. Et c'est l'heure, c'est ça, le petit agitation, non, c'est ça. Donc juste juste, on tourne la page, vous regarderez à la maison. On a conservé à nouveau, je crois qu'on n'a plus l'original, ça, il a disparu dans les flammes. Sur le plafond d'un étage d'une pagode, à l'envers du plafond, on a trouvé, quand on a restauré une pagode, des poèmes écrits en katakana. Et on se dit que ce devait être les architectes, ou plutôt les menuisiers qui ont construit cette pagode, qui, ne sachant pas quoi faire, s'étaient mis à écrire comme ça des poèmes. Et ils sont écrits en katakana, et vous verrez la traduction maladroite que j'ai fournie de ces trois poèmes. Traduction non seulement maladroite, mais en réalité, les spécialistes, à nouveau, ne sont pas tout à fait d'accord sur le sens qu'on peut ou qu'on pourrait leur donner. Je vous remercie de votre attention.